Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'échanges citoyens, parole aux auditeurs. Dans le cadre du projet PDL 245 territoires, plusieurs chantiers ont vu le jour à travers le pays au cours de cette année pour la construction des infrastructures de base, parmi lesquelles la construction des ouvrages scolaires dans chaque territoire. Ceci en vue de renforcer la réforme de la gratuité à l'enseignement. Le gouvernement congolais a confié l'exécution de ce projet à trois structures, notamment le BESICO, le PNUD, et la CLEF, entendait celui d'exécution du financement en faveur des États fragiles. Si dans certains territoires, les ouvrages concernant les infrastructures scolaires sont déjà achevés ou presque, dans d'autres, cela pose encore problème pour des raisons de logistique, d'accessibilité, du retard lié à la passation des marchés. Que pensez-vous de la construction des ouvrages scolaires dans votre territoire dans le cadre du projet PEDEL à une semaine de la rentrée scolaire 2023-2024? Vous pouvez réagir en direct en composant les 081-890-63-30 ou les 081-890-49-69. Polider Basunga est à la mise en nom de ce magazine. Blechindana sur la coordination de la réalisation. Micro, c'est Marcel Ngomombala. À toutes et à tous, excellent condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Merci d'être nombreux à avoir réagi sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Merci également de continuer à réagir sur cette page Parole aux auditeurs. Si vous souhaitez réagir, je rappelle le numéro. Vous pouvez composer les 081-890-63-30 ou les 081-890-49-69. Nous avons déjà en ligne le premier auditeur qui c'est Jérémy Mwamba. On va échanger avec Jérémy Mwamba. Bonjour Jérémy.
Oui, bonjour Monsieur Marcel. Bonjour également à l'invité. Le sujet, il est pertinent. Vous savez, nous en avons parlé il y a longtemps. Je pense que ce projet de 145 territoires, vous savez, c'est un projet vraiment qui vient, n'est-ce pas, réguler certains problèmes. Alors, les problèmes restent maintenant à savoir, lorsqu'on a eu à débloquer ce montant de 10 millions à chaque territoire, il revenait à chaque territoire de pouvoir utiliser donc ces fonds de manière efficiente. Mais ce que nous constatons sur le terrain, quand même, il y a certaines prouesses hein, qui sont à mettre à l'actif à ce régime, parce que, vous savez, la gratuité de l'enseignement est en train de prendre forme. On constate partout les choses quand même se coordonnent normalement, mais vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est au prorata de ceux qui ont été des bons gestionnaires. Parce que, vous savez, il y en a qui n'ont pas su gérer à cause de l'opacité, des problèmes, des conflits internes qui n'ont pas eu profiter, n'est-ce pas, aux avancées significatives dans les problèmes des 145 territoires. J'ai vu quand même à la télé, je pense que c'est sur la chaîne nationale, quand même certaines réalisations, n'est-ce pas, à mettre à l'actif à ce régime, c'est ça, c'est à saluer à juste valeur. Mais je me dis maintenant, jusqu'alors, quand nous entrons dans le secteur de l'enseignement, voyez un peu combien d'écoles l'école, donc c'est-à-dire l'État, regorge. On a moins d'écoles que dans de certaines écoles, dans des milieux privés. Alors il faut que maintenant, à ce stade, que l'État congolais fasse quand même d'urgence, qu'il puisse s'activer pour que vraiment la matérialisation des programmes, par exemple, de la gratuité de l'enseignement via le développement, les problèmes des projets de 145 territoires soit effectif. Parce que vous constatez avec moi que vous trouvez des classes vraiment pléthoriques, les enfants sont assis à même les sols, ce qui fait que la réussite n'a pas été à la mesure, donc c'est-à-dire au moyen attendu. Et là, il faut que réellement que les choses se coordonnent à ce stade. Mais si nous entrons dans les centres hospitaliers, où nous voyons que quand même, il y a quand même des avancées considérables, mais il faut réellement que l'État congolais s'emploie dans ce stade, punir sévèrement, déférer devant les instances judiciaires ceux-là qui ont joué dans l'opacité. Parce qu'on ne peut pas comprendre un seul instant que certaines avancent, mais pendant que les autres régressent. Et il y a aussi un point, nous avons dit, il fallait, lorsqu'on martelait sur le projet des 145 territoires, il fallait allouer le fonds conséquent aussi dans les domaines agricoles. Regardez aujourd'hui, il y a la souffrance à gauche, à droite, tout simplement parce que nous n'avons pas eu à exploiter ce secteur qui, du reste, est vraiment oublié totalement. Il faut que, réellement que les gouvernements puissent s'y atteler et ceux-là pour qui on canalise les fonds doivent vraiment développer leur secteur pour que, parce que vous savez, la réussite dans les territoires, c'est la réussite du régime.
Mais dites-moi, Jérémy, excusez-moi de vous interrompre à ce stade, mais dites-moi, pour vous, puisqu'on va insister aujourd'hui pour ce qui est de construction des ouvrages scolaires, quand vous savez, avec la réforme sur la gratuité de l'enseignement qu'il fallait absolument appliquer, il était question que dans chaque territoire, en tout cas dans le cadre de ce projet, qu'on puisse construire des ouvrages scolaires. Est-ce que vous estimez, pour ce qui est, par exemple, de la construction des ouvrages scolaires, en tout cas, ça a marché quand même pour certains territoires, puisque là, on est à une semaine de la rentrée scolaire 2023-2024.
Tout à fait. C'est le cas de le dire, parce que je vous dis que j'ai vu de mes propres yeux. Moi, oui. Tout ce temps, moi, j'ai pensé que c'était de l'utopie. C'était vraiment. Mais j'ai vu hier, d'ailleurs, sur la chaîne, j'ai constaté. D'abord, on a essayé de montrer ce qu'étaient ces écoles. Et après ce qu'elles sont devenues. Ça, j'ai apprécié vraiment. J'ai compris que le travail est en train d'être fait. Il faut encourager. Ça, c'est le cas de le dire. Lorsque il y a des bonnes choses qui sont vraiment faites, il faut vraiment jeter les fleurs. Ça, c'est le cas de le dire. Mais je me dis, mais il y a certains territoires qui sont restés vraiment dans la figuration très distraits. Si ce ne sont que peut-être des conflits internes, etc. Mais les autres vraiment ont eu à montrer des prouesses considérables. C'est ce que nous parce que vous savez, on parle de la gratuité de l'enseignement, il faut parler aussi en termes des infrastructures. Quelles sont les infrastructures qui ont été, n'est-ce pas, mises en place pour pouvoir accueillir les enfants à quelques jours de la rentrée scolaire? Ça serait vraiment un pas considérable. Mais quand nous avons vu ces gestes, nous avons dit non, en tout cas, il faut encourager, mais il faut nécessairement qu'on puisse faire ce qu'on appelle un bilan. Lorsque vous allouez le fonds, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une mesure d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on a eu à faire avec ce fonds qui a été alloué pour telle cause? Est-ce que réellement la cause pour laquelle on a affecté tel fonds, est-ce que ça a répondu aux attentes de la population? Parce que nous devons avoir chaque fois un système de contrôle. Parce que lorsqu'on ne peut pas avoir, on amène un fonds ou le fonds, mais il n'y a pas suivi. Lorsqu'il n'y a pas suivi, c'est que quelque part, il y aura de l'arbitraire. Et lorsqu'il y a de l'arbitraire, on ne peut pas laisser impuni ce cas. On doit réellement, chacun doit répondre compte tenu de ce qui a été alloué en sa faveur pour pouvoir développer les territoires. C'était une occasion en or pour que chaque territoire présente quand même un bilan considérable. Et lorsque le bilan est positif, il y va en même temps de la cote positive pour le régime en place. Et lorsqu'il y a échec, ça va retomber nécessairement sous le dos du régime et il y aura de l'impact lorsqu'il y aura les échéances électorales. C'est ce que nous voulons à ce stade, encourager ceux qui ont avancé, qui ont fait du fouet et pouvoir, n'est-ce pas, tirer aux oreilles, ça c'est le cas de les dire, pour ceux qui sont placés comme responsables, pour voir pourquoi vous n'avez pas géré, il n'y a pas eu une gestion, et donc ça veut dire il n'y a pas eu une gestion correcte et orthodoxe dans les fonds qui ont été alloués pour pouvoir développer les territoires. Et lorsque il n'y a pas des avancées, c'est le pays qui est bloqué et c'est le développement de notre pays qui est mis à mal. Et c'est ce que nous ne voulons pas, parce que le pays, en principe, doit décoller. Et le pays décolle avec les gens qui ont la conscience, la volonté de faire, les gens qui ont le sens du patriotisme. Lorsqu'on n'a pas le sens du patriotisme, c'est difficile d'exceller, c'est difficile d'aller de l'avant. Nous allons régresser, et on va parler de la RDC, toujours en régression, on est à la traîne pendant que les autres avancent. C'est le moment de pouvoir révolutionner les choses dans plusieurs secteurs, et ce serait la gagne de tout le pays.
Voilà, merci Jérémy. Donc pour vous, c'est vous lancez de fleurs à tous ceux, à toutes ces structures qui ont reçu de moyens pour faire ces travaux. Oui, oui. Et vous demandez à ce que pour tous ceux qui ont reçu des financements et qui n'ont pas pu réaliser des travaux, il est question de savoir pourquoi les travaux n'ont pas pu être réalisés pour ce qui est surtout pour les sujets du jour des ouvrages scolaires. Merci Jérémy. On va retrouver un autre auditeur, c'est Peter Mabudi qui est ici à Kinshasa. Bonjour Peter.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Merci beaucoup, Marcel, pour m'avoir associé à cet échange. Je pense que nous avions tous salué le lancement du programme des 145 territoires. Cependant, à quelques jours de la rentrée scolaire, monsieur Marcel, il y a lieu de faire le bilan parce que le projet, en fait, a été lancé il y a de cela presque une année et demie, deux ans, je crois. Et nous avions débattu sur ce sujet concernant les difficultés que rencontrent certains territoires liés d'abord à l'accessibilité de certains territoires qui sont généralement désenclavés où le matériel de construction pour atteindre ces territoires, ça pose toujours des problèmes sérieux sur le terrain. Lesquelles des difficultés, des contraintes, les gouvernements n'avaient pas si d'abord s'y atteler pour voir quelles sont les faisabilités de chacun des territoires pour adapter les projets aux réalités de chacun des territoires. Ça, c'était un point qu'on avait soulevé jusqu'aujourd'hui qui demeure encore, je crois, un problème parce qu'il y a certains territoires qui ont déjà bénéficié de certains ouvrages du programme des 145 territoires qui doivent nécessairement abriter les enfants dès la rentrée de scolaire. Mais il y a d'autres territoires qui, jusqu'aujourd'hui, les travaux n'ont même pas encore commencé. C'est le cas du territoire de Mweka où j'apprends qu'il y a encore même des conflits partant des choix des écoles qui ont été ciblées par le programme pour que les écoles puissent être réhabilitées ou construites par le gouvernement à travers le programme des 145 territoires, monsieur le journaliste. Ça, c'est un aspect très capital où le gouvernement devrait d'abord identifier les écoles, que cela ne puisse plus profiter aux élus, aux certains élus nationaux qui en profitent pour faire leur campagne en se servant bien sûr de ce programme, en prenant ces écoles qui ont été initiées par le gouvernement pour les placer dans leur coin, tout ça pour des faits politiques. Là, je crois que même les structures qui ont été sélectionnées pour la construction de ces ouvrages, M. Marcel, ça doit aussi leur interpeller parce que quand on conçoit un programme, un projet, il y a déjà les critères d'identification des écoles qui devront être réhabilitées ou construites. Mais nous constatons que certains politiciens se mêlent dans cette histoire justement pour tirer l'électorat, ce qui n'est pas bon. Et nous jetons des fleurs, comme M. Jérémy a dit, au gouvernement. Mais cependant, le reste n'est pas à voir ce qui se passe à la télévision. Parce que à la télévision, c'est les mêmes images que le régime passé nous montrait. Nous voulons voir les réalités du terrain et non voir les images, on peut les fabriquer, on nous lance sur les télévisions. Mais nous voulons que cela soit une réalité. Encore un aspect de plus que je voudrais apporter. Il y a certains territoires, M. Jody, qui ont plusieurs écoles, admettons 300, 400, ainsi de suite, 1000 écoles. Mais pour un territoire, quand on construit une école, est-ce que vraiment nous allons jeter des fleurs sur cet aspect-là? Non, c'est insuffisant. Si on prend seulement une école, je dirais pour un territoire, c'est un village qui en bénéficie. Mais le reste des villages, et chaque territoire a combien de villages? Donc, je crois que le gouvernement devrait beaucoup plus s'atteler. Quand on a même décrié, on a lancé le programme de 145 territoires en décrétant la gratuité d'enseignement, les chefs de l'État devaient beaucoup plus s'atteler sur ça parce qu'il y avait un problème de capacité d'accueil des écoles qui existaient par rapport aux nouveaux enfants qui se sont ajoutés partant de cette gratuité et augmenter la capacité d'accueil des écoles. Jusqu'aujourd'hui, cela n'a pas été envisageable. Mais dans quelles conditions nos enfants étudient? Dans des conditions inhumaines. C'est difficile. Il y a de cela 4 ans que le programme de sang à quoi, le projet de la gratuité a été lancé. Jusqu'aujourd'hui, les enfants étudient dans de mauvaises conditions. Et également aussi, il y a certains enseignants qui ont accepté à enseigner les enfants. Il y a de cela 4 ans aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, certains demeurent encore impayés dans certains territoires, notamment à Mweka, à Luebo, à Tikapa, tout ça, à Ilebo. Il y a beaucoup d'enseignants qui demeurent encore impayés. Est-ce que le gouvernement peut également aussi penser dans les cas, bientôt la rentrée scolaire, est-ce qu'il n'y aura pas encore des quoi parce que les enseignants ont attendu 3 ans, 4 ans, jusque-là, ils ne sont pas en possession de leur argent. Alors qu'ils sont en train de presser, encadrer les enfants dans la gratuité. Je crois que le gouvernement devrait également penser sur cet aspect avant la rentrée, qu'on puisse résoudre certains cas des enseignants non payés et également aussi revoir le nombre d'écoles pour chacun des territoires. Cela pourra nous permettre de bien penser que cela nous permettra aussi également d'être déjà sur les bonnes bases que nous voulons que les pays puissent avancer.
Voilà, merci Peter Maboudi. Vous également, vous avez salué les exploits qui sont déjà réalisés pour ce qui est de la construction de ces ouvrages scolaires dans certains territoires, mais vous avez également insisté sur le fait qu'il faut au gouvernement congolais de faire encore beaucoup d'efforts, hein, notamment pour ces vastes projets, parce qu'il faut le dire, pour ce qui est des écoles, à lire le document par rapport à ces projets de développement local de 145 territoires, il est prévu au moins 1210 écoles à construire, à réhabiter, à équiper, c'est-à-dire qu'il y a des écoles qu'il faut réhabiter, des écoles qu'il faut équiper, mais des écoles qu'il faut absolument construire dans chaque territoire de la RDC. On va cette fois-ci écouter Alidor. Alors, bonjour Alidor qui nous appelle depuis Kananga. Bonjour Alidor.
Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capé.
On vous écoute Alidor.
Oui, déjà nous saluons à sa juste valeur les projets de développement des 145 territoires, parce que sur le terrain, il y a quand même des traces, il y a des ouvrages qui sont déjà réalisés ou construits au standard moderne. À la différence des autres projets, comme celui de ça, de 100 jours et tant d'autres qui n'ont laissé aucune trace sur le terrain, mais avec les nouveaux projets ici, il y a de quoi remercier le chef de l'État et chapeau bas à tous les acteurs qui sont impliqués. Mais là où se pose le problème, c'est au niveau des infrastructures de base. On construit des bâtiments, on construit des écoles, mais il y a un problème d'accessibilité. Comment on peut arriver à telle école parce que la route n'est pas, donc la route est inexistante. La route est impraticable. Donc au niveau de nos territoires, il n'y a pas moyen d'accéder. Pas seulement au niveau des chefs-lieux des territoires, mais aussi au niveau de différents villages. Alors, il lui fallait qu'on fasse d'une pierre deux coups. En même temps, on construit des ouvrages, on construit des écoles. En même temps aussi, on entretient les routes pour permettre aux élèves d'accéder à ces écoles-là. Parce qu'il y a peu, beaucoup d'élèves, nous quittions des centres-villes pour aller dans des internats au niveau de l'intérieur. Mais comment aujourd'hui les parents peuvent encore envoyer leurs enfants au niveau des internats parce qu'il n'y a pas moyen que ces enfants-là arrivent aux internats à cause des mauvais états des routes. Donc c'est déjà aussi un aspect qu'il va falloir prendre en compte et aussi penser aux conditions optimales de travail des acteurs de la CRE. Comment expliquer aujourd'hui, si vous construisez de bonnes écoles, si vous construisez des bons bâtiments, ainsi de suite, mais l'animateur, l'enseignant qui est au centre, il travaille dans quelles conditions? Il a quel salaire? Est-ce qu'il a le cœur à l'ouvrage? Quelqu'un qui travaille sans salaire, comme le prédécesseur l'a dit, il est là parce qu'il y a gratuité, il n'y a plus de primes au niveau, donc la motivation des parents. Quelqu'un qui travaille comme ça pendant 5 ans, et il n'est pas payé, il est là. Donc, ça l'expose même aux antivaleurs, la corruption, et cela entache la qualité de l'enseignement dans notre pays. Donc, nous encourageons le gouvernement à continuer à aller encore de l'avant pour réunir tous ces aspects, et nous pensons que il y va de la qualité de l'enseignement de nos enfants.
Bah, merci Alidor, depuis Kananga. Et effectivement, dans ce projet de développement local de 145 hectares, c'est un vaste projet où on parle également de la construction de routes, de dessertes agricoles, de la construction de la réhabilitation des infrastructures routières pour permettre l'accessibilité dans certains coins, dans certains territoires qui ont de problèmes d'accessibilité. Donc vous estimez que c'est bon de faire déjà des travaux pour ce qui est, par exemple, de la réhabilitation, la construction des écoles dans les territoires, mais il faudra également penser à réhabiliter les routes ou construire des routes pour permettre à ce que les enfants puissent accéder à ces écoles. On fait signe qu'il y a François qui est en ligne depuis Ilebo. Bonjour François. François, vous êtes en ligne?
Oui, je suis là.
Voilà, c'est Marcel Ngombo. Merci de nous rejoindre dans ce magazine Parole aux auditeurs. On est en train de parler du projet PDL du 145 territoires, notamment pour ce qui est de la construction des ouvrages scolaires. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces projets pour ce qui est des ouvrages scolaires à une semaine de la rentrée scolaire 2023-2024?
Merci beaucoup, chevalier de la plume de la radio Capi Marcel. C'est François Kouni depuis les mots au Kassai Tshikapa. Vous savez, nous avons un constat amer. Et les gens ne veulent pas aider le gouvernement actuel et le chef de l'État. Et je vous donne un petit exemple. À Mweka, où j'étais là-bas, dans la province de Kassai, les travaux de la reconstruction dans le cadre des programmes de développement des locales des 145 territoires évoluent à pas de tortue. Tout ça, ce n'est pas la mauvaise volonté du gouvernement, mais c'est par moment les structures qui ont bénéficié les marchés et les gestionnaires du gouvernement. Donc, dans l'espace Grand Kassai, par exemple, espace géographique du chef de l'État, il y a tâtonnement de la construction des ouvrages. Et pourtant, nous allons vers les élections, c'est pour faire manquer le discours au gouvernement sortant ou comment? Que les chefs de l'État lui-même puissent veiller à ça. Parce que nous sommes à 3 mois des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et municipales. Nous sommes à Ilebo. Je suis passé devant les territoires où il y a la fondation pour ériger les bâtiments législatifs. Mais laissez-moi vous dire que jusque-là, ils n'ont pas même à 3 mètres. Alors tout ça, c'est quoi? Nous devons dénoncer le mal quand il y a des mal. Le chef de l'État a lancé le marché. Alors l'exécution devient difficile, pourquoi? Alors, il faut qu'il y ait un suivi permanent de tous les gouverneurs des provinces à travers les 26 provinces. Je pense qu'ils peuvent aider bien le chef de l'État pour avoir le discours lors des élections à venir. Donc vraiment, c'est une désolation à la République du Congo par rapport à ce programme. Donc cette thématique est la bienvenue, mais ça prouve que ça puisse aussi éveiller la conscience du chef de l'État, du Premier ministre et tous les ministres sectoriels, monsieur le ministre Martel.
Voilà, vous insistez, il faut que le chef de l'État puisse veiller au grain pour la réalisation de ce projet, parce que c'est un projet porteur d'espoir pour le développement de nos territoires, et que si ça ne marchait pas, ça pourra certainement avoir probablement de conséquences par rapport à ce qui est de la formation des enfants pour ce qui concerne la réforme de l'enseignement de base, c'est-à-dire la gratuité de l'enseignement, pour permettre à beaucoup d'enfants congolais de faire l'école primaire. Voilà, on va écouter Franck qui nous appelle depuis Vienne. Bonjour Franck.
Bonjour à notre ami Marcel, bonjour à tous les fidèles auditeurs de la radio Capi, bonjour à vous tous au studio.
On vous écoute Franck, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. En principe, pour de telles thématiques, j'aurais souhaité d'abord écouter les amis qui sont sur place au pays, oui. Parce que quand on intervient parfois de l'extérieur, il y en a qui disent que vous n'êtes pas sur place, vous n'avez pas droit à la parole. Mais je crois que cette thématique avait déjà été soumise à un échange il y a quelques mois, si j'ai encore bonne mémoire. Et pour la fois passée, je m'étais référé aux amis qui sont sur place, qui sont dans les territoires de Bagata, de Bulungu, de Massimanimba, de Gungu, de Diofa, vers Feshi, Kaemba. Et en ce moment-là, il y en avait qui me disaient que les travaux étaient déjà en cours. Mais hier, quand j'ai revu encore la thématique, j'ai tenté de rentrer en contact avec certains. Je les ai pas eu, sauf un ami qui est à Bulungu, qui m'a vraiment attesté que les travaux avancent très bien au niveau du territoire de Bulungu. Ils sont déjà presque au niveau de la peinture. Et selon lui, c'est un ami qui était à la coordination, un prêtre. Il espérait déjà qu'à partir de la rentrée scolaire, si les travailleurs peuvent être expéditifs, nos enfants de Bulungu peuvent déjà bénéficier de cette œuvre sociale. Je trouve personnellement que c'est quelque chose à saluer. C'est une initiative qui vaut la peine d'être saluée. Mais le plus grand problème, c'est comme on l'avait évoqué la fois passée, c'était les études de faisabilité devaient se faire en amont, parce que on ne devait pas seulement penser à construire dans tous les territoires sans avoir pensé à certaines conditions, surtout les conditions d'accès. Et le développement local à la base, je crois que c'est un projet qui ne devait pas seulement être chapeauté de la présidence à la base, mais c'est déjà au niveau de la base que les travaux devaient être pensés et présentés au niveau du gouvernement pour être exécuté avec beaucoup de facilité. Puis, quand je suis certains amis, tels que celui de Mweka, il faut aussi tirer un peu la sonnette d'alarme. le projet est piloté par le gouvernement, mais seulement il y a des récupérations politiciennes de certains députés qui veulent se les approprier pour présenter à leurs électeurs comme si c'était à leur actif. Et je crois que c'est à ce niveau que les citoyens congolais doivent se montrer aussi attentifs. Parce que quand un État construit des écoles, quand un État construit des routes, quand un État construit des hôpitaux, quand un État construit des œuvres sociales, ce sont des devoirs, des attributions régaliennes à chaque État. C'est la mission de l'État de construire. Donc, quand un État construit, on doit quand même saluer, mais on ne doit pas en faire des psaumes politiques ou tout ça, parce qu'il y en a qui pensent que on sort vraiment de l'ordinaire, on sort de l'extraordinaire pour bénéficier de ses œuvres. Donc, chaque État qui se respecte, chaque État qui se sait État, chaque État qui est digne d'être appelé État a ses devoirs, même cette obligation de construire les hôpitaux, de construire les écoles, de construire les routes, de construire les œuvres sociales et aussi de veiller à ce que tout ce qui est construit là puisse être convenablement fonctionner convenablement. Et aussi aux usagers, ceux qui sont sur place, on doit aussi les interpeller parce que chez nous, dans la plupart des cas, on construit, on investit, mais il y a parfois des problèmes au niveau de la culture pour entretenir. Donc, ce sont des œuvres sociales qui ont été réalisées moyennant l'argent de l'État, moyennant l'argent de tout le monde. Ça doit être entretenu et ça ne doit pas être géré de manière un peu hasardeuse, de manière désordonnée, sans discipline, sans vision, un peu comme ça. Donc, personnellement, je trouve que c'est bien d'évaluer, mais peut-être pour les prochaines fois, on ferait mieux de faire d'abord des bonnes études de faisabilité en amont pour ne pas prendre les gens de manière surcutée, quoi. Par exemple, là, il y a des députés qui se précipitent. Ça devient des arguments pour leur campagne électorale. Alors que c'est un projet qui ne devait même pas être mis sur l'actif d'aucun député parce que c'est parmi les missions, les devoirs, les tâches régaliennes de l'État. Merci beaucoup.
Merci Franck. Depuis Vienne, on va revenir ici en RDC pour écouter Marie-Paul qui est en ligne. Bonjour Marie-Paul.
Journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capio.
Bon, vous écoute Marie-Paul.
Oui, la mise en œuvre du projet Pandel des 145 territoires en RDC est à saluer à juste titre, car parce que ce projet-là, monsieur le journaliste, est constitué un signe précaire, bien évidemment, de booster le développement au niveau local dans les entités territoriales décentralisées, les entités déconcentrées. Vous savez, le processus de désenclavement de nos territoires est une étape cruciale, bien évidemment, dans ces droits de libre circulation des personnes et des biens. Parce que si les gens vont commencer à circuler de manière libre et que les biens et services vont commencer à sillonner, oui, bien évidemment, tous les territoires, on aura bien évidemment ce qu'on appelle l'intégration, ce qui est bien évidemment un signe de développement. Alors, le projet, comme vous le savez bien, de 145 territoires, un salutaire pour la RDC, je viens de le dire, et parce que ce projet-là ne va pas seulement garantir, comme je l'ai dit, le développement au niveau des bases, mais aussi ce projet, bien évidemment, détermine également la rétribution de revenus équitables sur la population. Vous savez, presque les richesses de la RDC sont consacrées au niveau des villes, au niveau, bien évidemment, des entités très élevées. Mais si déjà on songe à ces entités-là, ça sera une très bonne chose. Et le Congo, comme vous le savez, c'est lui qui bénéficie, c'est les pays qui bénéficient en général de ces projets-là. Et aussi, la population qui habite ces coins. Et j'ai quand même eu le temps de voir tout ce qui se passe par rapport à ces projets. Il y a quand même à féliciter parce que dans tous les territoires, il y a des projets qui ont commencé et d'autres qui sont très bien
avancés. Marie-Paul, vous avez dit que vous avez le temps de certainement de faire un tour, de visiter ce qui se passe pour ce qui est de l'exécution de ce projet. Et s'il faut dire comment ça se passe dans votre province, vous estimez que pour ce qui est des ouvrages scolaires, est-ce qu'il y a des ouvrages qui sont déjà achevés ou bien et c'est encore en cours de construction?
Non, beaucoup d'ouvrages scolaires ne sont pas encore achevés. Vous savez, on a commencé quand même ce processus en retard. Et pour bâtir une maison durable, une maison en matériaux durables, ça nécessite le temps. Voilà pourquoi moi je propose, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui ne sont pas encore achevés, je propose comme nous sommes devant un impératif, il y a déjà l'année scolaire qui commence, et ce qui est vraiment plausible pour nous, c'est de commencer... Bien évidemment, avec les ouvrages qui ont existé, en attendant que les ouvrages qui sont à chantier puissent très bien terminer, qu'on n'ait pas ce processus de voir les ouvrages commencer, qu'ils inachevés, on donne les gens commencent à abriter là. On n'a pas vraiment l'espoir que si on rendait aux autorités scolaires les ouvrages non achevés et que après la clôture de l'année scolaire et que l'État va encore revenir retravailler ça, ou bien ceux-là qui ont réussi les marchés viendront encore travailler. Voilà pourquoi on doit continuer d'abord dans ce contexte-là, parce que l'année commence là. Il y a quand même lié que les autorités locales puissent aménager, puissent un peu revoir les locaux qui ont existé bien avant, au-delà du fait que ces locaux sont en état de délabrement très avancé, mais on peut encore entretenir ça. On attendait que les maisons qui sont en construction, les bâtiments scolaires, puissent être achevés complètement comme était dans les contrats que les gens ont pris avec ceux-là qui doivent exécuter les projets. Et aussi, d'ailleurs, vous savez, les grands problèmes, c'est au fait que nous avons un problème de route. Et parmi les voies qui ont été optées pour ramener les matériaux de construction, c'est la route et la voie maritime. Mais si nous nous rendons bien compte que nos routes sont presque inexistantes, il y a aussi, nous avons un problème de navires et ainsi de suite, pour que les matériaux puissent quitter dans leur lieu de provenance et arriver dans les territoires. Or, nos territoires sont toujours enclavés, il n'y a pas de route. C'est ce qui fait même que d'autres commencent à prendre, à ramener des matériels par des vélos. Et ça va prendre énormément de temps. Et ça va aussi demander à ce que ceux-là qui construisent soient quand même des gens expérimentés. Sinon, on risque d'avoir des ouvrages qui ne vont pas durer autant, parce qu'il y a un problème de route. Je crois que dans le projet des 145 territoires de ces développements, il y a quand même des projets de route. Je crois les autorités de la RDC ont tout intérêt également de voir les voies de communication, essayer un peu de construire les routes, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'intégration ou qu'on appelle l'autoconsommation si et seulement si nos routes continuent à être dans cet état que nous connaissons. Il y a des choses qui sont produites ici au niveau de Kisangani qui ne sont pas connues à Lubumbashi. Il y a des choses qui sont produites au niveau des Sud Kivu qui ne sont pas connues à Kisangani. Ça, c'est un élément qui influe très mal sur le développement de la RDC, parce que la RDC c'est un pays qui est vaste. Mais si on arrive à désenclaver, voulais-je dire, les territoires, nous allons voir que la circulation des personnes et des biens et services sera vraiment amplement consentie et par conséquent, le développement sera au rendez-vous, parce que quelqu'un qui a produit au niveau local va facilement ramener ses productions dans les centres-villes et ceux qui habitent les centres-villes vont consommer ce qui est produit au niveau local et l'argent va circuler et que la personne qui est très loin peut aussi se retrouver par rapport à sa production. Voilà, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et au lieu de s'attendre tout simplement aux recettes fiscales, oui, ça c'est un droit de l'État, mais on peut aussi, à partir d'autres recettes qui ne sont pas des recettes fiscales, arriver à établir, parce que les gens qui sont commis dans des routes, ils vont commencer à percevoir les droits des routes, il y a des taxes que les gens vont payer, et ça entre bien évidemment dans les comptes des recettes de l'État, et du coup, on aura assez d'argent, on n'aura même pas à quémander ou à chercher d'autres financements parce que nous avons beaucoup de terres arables et que tout le monde, et d'ailleurs ça va aussi faire à partir de ces projets-là, les territoires vont se spécialiser dans des productions. L'État peut donner des spécialisations à telle telle province parce qu'il y a, toujours ces voies-là de communication qui sont établies. Et chaque territoire va commencer à fournir les centres-villes et on aura cette relation permanente des centres aux périphéries et des périphéries aux centres. Et ce qui est, dans la logique des affaires, un moyen de pouvoir développer ces pays au lieu tout simplement de se mettre à compter à l'extérieur, au lieu de nous concentrer par rapport à toute la manne que Dieu nous a donnée ici, notamment les terres, et aussi, ça va d'ailleurs diversifier aussi. On ne va pas rester dans la monoproduction. Non, non, on doit absolument diversifier notre économie, et en diversifiant l'économie, nous allons accéder à un développement qui sera bien évidemment durable, parce que la pression des gens ne sera pas beaucoup plus sur l'environnement, et la destruction à ce moment-là ne sera pas trop au rendez-vous, et puis nous allons assister à un développement comme une clé. C'est la clé vraiment, moi je trouve que ce projet c'est une clé, il y a lieu vraiment de pouvoir continuer, même si ce projet va prendre fin, mais je crois que les autorités au niveau central, au niveau provincial, oui, doivent beaucoup plus investir dans ce projet-là pour que notre pays arrive à booster le développement à partir de la basique, à partir des bases, et chacun à son niveau. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a exode rural, c'est parce que les gens trouvent que dans les territoires, c'est l'enfer, c'est la mort. Mais si déjà dans les territoires, on a mis des conditions, ne serait-ce que pour assurer, pas seulement l'éducation, parce que l'accès est beaucoup plus sur l'éducation, mais il y a aussi d'autres secteurs de la vie qui peuvent aider le pays à avancer. Et l'éducation, oui, nous l'avons dit, l'accès est beaucoup plus selon selon les termes, mais si on voit juste les ouvrages scolaires, mais il y a aussi des ouvrages économiques, des ouvrages sociaux, nous avons des hôpitaux qui sont en construction, nous avons également les routes qui doivent être construites, qui doivent complètement être réfectionnées, et tous ces ouvrages-là vont permettre les pays à avoir un contrôle. Et voilà pourquoi je disais que le vrai bénéficiaire, c'est l'État lui-même de ces projets-là, et après, parce que la population, nous tous là, nous constituons la population, nous allons également appuyer l'État à avancer dans ce sens-là, et à continuer et les désenclavements. Et ça va faire est-ce que les pays puissent bien évidemment développer ça là, de ce point de vue là, nous pouvons valoir ou projeter un développement durable ou une promotion à tous les niveaux dans notre pays. Voilà ce qu'il faut dire en dehors de ce que les autres pourront ajouter.
Bah, merci à Marie-Paul Awad. Vous rejoignez l'avis de ceux qui vous ont précédé, notamment pour ce qui est de l'enclavement. Il faut désenclaver certains territoires pour permettre l'accessibilité. C'est d'ailleurs l'une des raisons évoquées par les différents exécutants de ce projet. Cela a pris du retard dans quelques territoires, justement pour des problèmes d'accessibilité. 081-890-63-30, 081-890-69, ce sont là les deux numéros si vous voulez intervenir par rapport à ce sujet de votre magazine des champs citoyens parle aux auditeurs où nous parlons de 145, de ce projet de développement de 145 territoires pour ce qui est notamment des ouvrages scolaires à une semaine de la rentrée scolaire 2023-2024.
Parole aux auditeurs.
On va poursuivre cet échange avec Patrick Odia qui est en ligne. Bonjour Patrick.
Bonjour à Radio Okapi. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. Je voulais saluer les interventions de mes prédécesseurs tout à l'heure, lorsqu'ils soulevaient les problèmes de désenclavement des territoires ici qui composent la République démocratique du Congo. Mais là où je ne suis pas d'accord avec les uns également, c'est lorsqu'ils conditionnent, j'allais dire, la livraison de quelques ouvrages, notamment ici, les écoles et autres, à une certaine, il conditionne la livraison à certains préalables, notamment celui de construction des routes et autres. Moi, je pense que du point de vue technique, il y a lieu d'abord de remercier et de féliciter les gouvernements. Ça, c'est de un. Dès lors que nous pensons souvent que les gouvernements ou les développements tant entendus commencent de Kinshasa, vers les provinces, vers les territoires. Mais avec le nouveau régime, nous avons constaté que le développement devrait commencer désormais par les territoires d'en bas vers les hauts. Et je pense que c'est le vrai réellement, parce qu'ils ont décerné ces vrais problèmes. Alors, est-ce que doit-on livrer les écoles ou les ouvrages déjà terminés jusqu'à là? Oui, mais pourquoi pas? Doit-on freiner les enfants qui étudient? J'ai eu la chance d'être à l'Équateur il y a quelques semaines, ou quelques mois j'allais dire, mais il faut voir comment les enfants sont en train d'étudier dans des conditions très difficiles et très 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 difficiles. Les enfants qui vous étudient dans, sous des bâches, sous des ceci et cela, doivent-ils attendre jusqu'à ce qu'on va construire des routes? Mais moi j'ai dit non également. Les ouvrages qui sont déjà disponibles doivent être livrés pour permettre à ces enfants-là, qui sont en Bikoro, qui sont chez moi à Tilengi, de pouvoir étudier dans des bonnes conditions, au même titre que les enfants qui sont à Kinshasa, au même titre que les enfants qui sont à Lubumbashi, ou qui sont dans des chefs liés des provinces. Ça, c'est de un. Je ne voudrais pas ici tout à fait donner la perfection à ces ouvrages, d'autant plus que chez moi, à Tilengi, par exemple, j'ai constaté certaines écoles également, dont on a eu à constater la démolition, qui n'étaient pas de bonne qualité. S'il y a eu, après le comité de le cocal de contrôle, si on s'avérait qu'il y a des écoles, il y a des ouvrages qui faillent, nécessairement continuer à travailler sur ça pour permettre à ce que nous ayons des bons ouvrages durables et non faire des choses à la précipitation pour dire que non, nous avons livré autant d'écoles, nous avons fait ceci pour que le mandat du chef de l'État soit pompé. Mais il faudrait revoir également la politique, les matériaux de déconstruction par exemple. Ça c'est un élément réel de fait, tout comme également qu'on peut essayer de mettre sur la table et discuter sur ces. Mais nous constatons malheureusement que ces ouvrages ne sont pas pris en compte. Rappelez-vous, Nelson Mandela disait que l'éducation pour un développement durable d'un pays, on doit penser à l'éducation. Mais dans les volets de développement 145 territoires, vous allez voir que les écoles, les infrastructures n'ont pas été prises en charge beaucoup plus. Nous aimerions peut-être qu'on puisse ajouter beaucoup plus d'écoles, beaucoup d'ouvrages éducationnels pour permettre à ce que les enfants aient une bonne éducation. Et c'est là également voir de pair avec le régime, j'allais dire, le programme initié par le chef de l'État, celui de la gratuité de l'enseignement. Qui dit gratuité, dit également l'environnement dans lequel les enfants doivent étudier. Et ça ne doit pas être un développement sélectionné ou sélectif. Justement,
Patrick, s'il vous plaît.
Mais ça doit être dans tous les territoires. Oui. Je parle même de 145 territoires. Mais notamment également des secteurs, des sous-cités et des endroits les plus reculés. Malheureusement, nous constatons qu'il y a certains territoires dans lesquels on n'a même pas encore eu à construire, ne fût-ce qu'une fondation, par exemple, où cette fondation n'est pas aux normes ou aux standards internationaux. D'où nous demandons ici les BESECO, le professeur Malumba, Madi Mulumba, avec toute son équipe également, doivent penser à ce que non seulement les ouvrages qui sont déjà disponibles doivent être livrés pour permettre aux enfants de vivre vraiment la vraie et la réelle gratuité d'enseignement, mais aussi on doit penser à ce que les ouvrages qui sont déjà ou qui sont en débitation, j'allais dire en difficulté, doivent être revus pour éviter ce qui nous est arrivé du côté Tiling, où nous avons vu la population se prendre en charge en détruisant certains bâtiments dans le cadre du programme de PDL 140 de victoire.
Mais dites-nous, Patrick,
nous pouvons remercier et féliciter le gouvernement, et nous les encourageons également à continuer à penser beaucoup plus à ces développements. Et ces développements nécessite tellement pas à l'éducation, mais aussi aux infrastructures, aux routes. Voyez-vous, quand l'enfant quitte un village loin pour arriver dans une école bien construite, par exemple, mais il passe dans un petit pont qui risquerait de lui permettre de tomber dans l'eau. Mais ça, nous parlons de la gratuité d'une part, mais également d'autre part, nous devons penser tous les éléments, tous les aléas, les éléments civils qui encadrent également la bonne gratuité ou l'éducation tant entendue. Non seulement les routes, non seulement également la construction des écoles, mais aussi la mise à niveau ou la mise à niveau des enseignants qui peuvent ici encadrer ces enfants. Si cet élément ou ces éléments sont pris en compte, nous pouvons alors parler de la réelle volonté du chef de l'État de pouvoir pérenniser le développement dans des milliers les recoins encore. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport au sujet d'aujourd'hui. À moins qu'il y ait une question. Sinon, je vous remercie pour cet idée et cet échange également.
Oui, Patrick, vous ne m'avez pas laissé vous accompagner dans ce que vous êtes en train de dire. J'ai cherché à savoir quand vous avez dit qu'il faut éviter qu'il y ait la précipitation dans la construction de certains ouvrages pour des visées électoralistes. Est-ce que vous avez comme l'impression que dans certains coins, on essaie de construire des ouvrages dans la précipitation?
Non,
Je disais ici tout à l'heure que s'il y a des ouvrages, nous avons constaté, j'ai eu la chance de circuler quelques provinces d'ici, Bandaka notamment, et quelques territoires, Ouattara et les autres, où j'ai vu des écoles de très bonne qualité qui ont été déjà construites. Alors, doit-on garder ces écoles parce que tout simplement d'autres aux alentours ne sont pas en mesure d'être livrés? Mais non, permettons à ce que ces enfants qui sont emmenés dans les parages puissent bénéficier également de la vraie gratuité de l'enseignement. Mais nous estimons que ces écoles, qui d'une pour une raison ou une autre, ont connu une mauvaise construction ou une mauvaise planification, doivent être ou doivent continuer à être construites et réaménagées pour permettre à ce que nous ayons de bonnes écoles, non seulement pour 10 ans pour des élections électoralistes, mais également tout au long de la période de l'année, pourquoi pas 10 ans, 30 ans, 50 ans, nous avons eu des écoles ici qui ont été construites sous l'ère belge. Mais aujourd'hui, nous continuons à utiliser également, notamment ici à Lubumbashi.
Voilà, merci. Merci, Patrick. On va écouter cette fois-ci Dieudonné qui est à Kinshasa. Bonjour, Dieudonné.
Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Kati.
On vous écoute, Dieudonné. Vous êtes dans les territoires de Nganda-Jika. On vous écoute.
Merci beaucoup pour la parole. Monsieur Marcel, moi, j'aimerais d'abord savoir pourquoi les Congolais se tuent entre eux-mêmes. Lorsque nous avions entendu le lancement de ce projet de PEDEL, on était très contents parce que c'était un projet qui devrait contribuer au développement de la RDC. Mais nous avions remarqué que ces gens qui sont partis sur terrain, ils se sont basés ne fût-ce que sur certains points. Par exemple, la construction des écoles, qui n'a rien à faire, il y a multiplication des écoles aujourd'hui, monsieur Marcel. Mais ils se sont basés encore à construire des centres de santé. Or, sur terrain, sur place, par exemple, dans le territoire de Ngandangique, il n'y a plus d'écoles, même dans les milieux reculés. Mais monsieur Marcel, il faut voir l'état des routes. Il n'y a pas la communication. Il n'y a pas la communication. Par exemple, quitter Ngandangique vers le territoire de l'huile. Il faut voir l'état des routes, monsieur Marcel. Pourquoi maintenant, quand ils sont construits ces écoles ici, les enfants vont circuler comment? Les enfants vont quitter la maison vers l'école comment? Or, nous entrons déjà dans la saison des pluies. Comment ils ont... Moi, je ne sais pas comment ils se sont basés, mais puisque en Ngandangika, ce projet, à part la construction de deux écoles que nous voyons, il n'y a pas quelque chose qu'on peut remercier ou bien qu'on peut dire que non, ça contribue à la vision du chef de l'État ou bien au développement du Congo. Donc, nous demandons quand même à ces gens qui ont acquis ce projet d'être réaliste sur terrain, de voir les objectifs qui ont été devant ce projet, de construire d'abord, de réhabiliter les routes, de faciliter la communication. Les routes font partie de la communication, M. Marcel. Alors, quand il n'y a pas la communication entre, par exemple, le territoire et un autre, c'est-à-dire, il n'y aura pas, il y aura la carence même alimentaire, parce qu'il n'y aura pas l'échange. Alors, ces gens doivent quand même revoir de construire quand même les routes. Nous n'avons pas besoin d'écoles en Ngandangique. En Ngandangique, il y a beaucoup d'écoles.
Merci. Voilà. Merci à Dieudonné depuis le territoire de Ngandangique, car vous estimez que pour vous, c'était de ce projet, pour ce qui est de Ngandangique, les écoles, vous avez déjà des écoles, le problème c'était plutôt les voies d'accès. On reviendra par rapport à, en tout cas, ce projet de développement local des 147 territoires pour voir les différents aspects de ce programme, comment les choses évoluent. Aujourd'hui, on s'est plus intéressé aux ouvrages scolaires. On va revenir à Kinshasa et c'est Laurent Mignon qui est en ligne. Bonjour Laurent, rapidement, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets sur la construction? Non, mais fait signe que Laurent n'est plus en ligne. Voilà, et on va écouter François qui certainement lui est en ligne depuis Chikapa ou Lebo, je sais plus très bien, mais je pense qu'il doit être à Lebo. François, vous êtes en ligne? Voilà, on a quelques soucis techniques avec nos lignes. On va certainement, d'ici avant la fin de cette émission peut-être, retrouver nos deux auditeurs. Continuer alors à réagir sur la page Facebook Parole aux auditeurs par rapport à ces sujets où nous sommes en train de parler de ces projets PDL des 145 territoires où plusieurs chantiers ont vu le jour à travers le pays au cours de cette année pour la construction des infrastructures de base, parmi lesquelles la construction des ouvrages scolaires dans chaque territoire. Ceci en vue de renforcer la réforme de la gratuité à l'enseignement, et le gouvernement congolais a confié l'exécution de ces projets à trois structures, notamment le BICECO, le PNUD, et la CLEF, qui est la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Si, dans certains territoires, les ouvrages concernant notamment les infrastructures scolaires sont déjà achevés ou presque, dans d'autres, cela pose encore problème pour des raisons des logistiques, d'accessibilité et du retard lié à la passation des marchés. Vous avez suivi les différents intervenants qui ont certainement applaudi ces projets porteurs d'espoir pour les développements de la RDC à partir de la base, c'est-à-dire à partir de territoires, mais ils ont plus insisté pour certains sur la faisabilité de ce projet dans certains coins, et d'autres ont plutôt parlé surtout de voies d'accès et de tous les problèmes liés à l'environnement. Alors rapidement, je vais lire certainement une réaction sur la page Facebook Parole aux auditeurs avant de clôturer ce magazine Parole aux auditeurs de ces jours. Il y a Simon Tiloulou qui nous écrit ceci depuis Matadi. Vraiment, Congo central, les bilans est mitigé, les programmes est très ambitieux. La République a aussi disposé des moyens conséquents, mais au Congo central, nous estimons en tant que société civile, gardien du temple, le suivi personnel du chef de l'État, comme le faisait lors de la constitution des infrastructures qui devaient être utilisées pour la francophonie, doit être fait au Congo central, car j'estime que ceux qui ont travaillé pour la passation des marchés doivent être arrêté, voilà, c'est ce qu'il écrit. Comment une entreprise avait gagné le marché, mais qu'un petit véhicule avait gagné les marchés, mais n'a qu'un petit véhicule alors qu'il doit travailler pour les grands Bandundu, en même temps pour les Congo central. Et deuxième difficulté, c'est que la planification n'a pas été vraiment bien posée. On a construit des nouvelles écoles. Est-ce que les arrêtés de création ont été pris? Les enseignants qui doivent travailler dans ces nouvelles écoles ont-ils déjà été pris en compte par le listing de pays? Alors que plus de 67 252 sont encore sans salaire, certains ont dépassé 10 ans et beaucoup d'entre eux risquent d'atteindre l'âge de la retraite en étant nouvelle unité. Voilà, ça c'était la réaction de Simon Siloulou depuis Matadi. Voilà, c'était un plaisir pour nous d'avoir été avec vous pour cet échange dans votre magazine. Par aux auditeurs, on a parlé de ce projet de développement local qui est un véritable projet porteur d'espoir et qui concerne les développements à la base, c'est-à-dire dans les territoires. Aujourd'hui, on a s'appesanti sur la construction des ouvrages scolaires dans les territoires à une semaine de la rentrée scolaire 2023-2024. Voilà, fin de ce magazine des paroles aux auditeurs de ces jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Patrick Kessongwa qui est à la mise en onde, d'Ablé Shindani qui l'a réalisé et coordonné au micro. C'était Marcel Ngomobala. Vous pouvez réécouter ce magazine sur www.radiocapi.net. Au revoir à toutes et à tous et bon suivi de programme sur la fréquence de la paix.